le réseau Cogeco vous présente En coulisses, la revue culturelle de la semaine. Voici Catherine Brisson.
Et officiellement, c'est la fin de semaine. Bienvenue à l'émission En coulisses. Ce soir, on reçoit l'auteur Jean-Philippe Barry-Guerrard qui nous parle de l'adaptation théâtrale de son livre Royal. C'est présenté d'ailleurs chez Duceppe jusqu'à la fin du mois de mai. Aussi, l'actrice Sophie Nélis, le film La promesse d'Irena est maintenant en salle partout à travers le Québec et c'est tellement touchant, c'est à voir cette fin de semaine si vous avez quelques instants. Également, nouvel album de Taylor Swift, une fan invétérée de l'autrice, compositrice, interprète Valérie Roberts va nous donner son avis. Mais tout d'abord, je ne sais pas si on peut dire que c'est un retour en musique, mais certainement un retour dans le temps. Et c'est pas pour les nostalgiques, L'écho des perles, ce nouvel album de Corneille, c'est un album à découvrir. En fait, j'ai envie de dire à redécouvrir avec des chansons méconnues du grand public qu'il a réenregistrées. On le reçoit à l'émission En coulisses. Un album coup de cœur parfait pour le printemps, pour avoir du beau, du bon. Le nouvel album de Corneille qui s'appelle L'écho des perles, il est avec nous. Salut Corneille.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien et je pense que toi aussi tu es dans une bonne période à entendre L'écho des perles, un album qui fait du bien à entendre.
Je suis dans une bonne période, c'est vrai, pour plein de raisons, mais aussi cet album, la réception qu'il est en train de recevoir me touche beaucoup parce que c'est mon 10e, je suis rendu à un peu plus de 20 ans carrière, puis je prends pas les choses pour acquis, donc à chaque fois que je sors un projet et que je vois là où quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, je pensais que le succès m'était dû. Aujourd'hui, chaque petit succès et chaque bon moment, je l'apprécie vraiment. Donc oui, je suis dans une bonne place et je l'apprécie pleinement.
Et c'est un album de chansons qui ont été écrites il y a plusieurs années, des chansons méconnues du public, bon, des chansons déjà enregistrées que tu as décidé de revisiter. Et là, tu as parlé de tes 20 ans de carrière, 10e album. Comment tout ça s'est mis en branle pour que tu dises, bon ben, moi, au lieu de faire mes 20 plus grands succès, je vais aller chercher dans les perles peut-être méconnues des gens?
Je me suis rendu compte que j'avais accumulé plein de petites tristesses, je dirais même des petites frustrations, du fait d'avoir sur chaque album toujours une, deux, parfois trois chansons auxquelles je suis très attaché parce que je trouvais que j'avais trouvé les bons mots, j'avais trouvé le courage de les dire pleinement, puis j'étais fier des mots que je chantais. Et ces chansons-là n'étaient pas nécessairement celles qui étaient mises en avant, qui trouvaient la lumière, qui jouaient à la radio. Généralement, ce sont les chansons qui jouent à la radio, que le public reconnaît, qu'on amène en tournée, évidemment, en spectacle aussi. Donc, sur chaque album, il y avait comme deux, trois chansons que c'était toujours mes petits oubliés. Et j'ai pris tous ces trésors cachés, qui sont parmi mes préférés de mes 20 dernières années de carrière, et je les ai rassemblés sur un album. Mais en gardant, en ne gardant que la mélodie, que les mélodies et les mots et les paroles, et j'ai changé tout le reste, changé les arrangements, toute la réalisation, les directions artistiques, et a été revisité. Puis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça.
Mais ça s'entend parce que quand on fait, j'ai fait la petite recherche en écoutant certaines versions originales, version maintenant L'écho des perles, et on voit aussi qu'il y a une maturité et dans ta voix et dans la musique, il y a plus d'afrobeat aussi là-dedans.
Oui, il y a beaucoup d'afrobeat. C'est une musique que j'écoute depuis longtemps, que j'ai déjà, à laquelle je me suis déjà essayé plusieurs fois. C'est une musique, c'est probablement parmi les musiques que je consomme le plus depuis plusieurs années. Et je me suis servi de cet album aussi comme prétexte pour enfin faire donner cette direction à plusieurs de mes chansons. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un son qui est familier aux gens, alors qu'il y a peut-être 10 ans, quand je l'ai fait sur certains albums, ben, ça parlait peut-être moins aux gens, ça avait l'air un petit peu plus ovni, parce que c'était un son auquel les gens étaient un peu moins familiers ici, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de grands succès afrobeat que ça déstabilise moi, on va dire.
Regarde les victoires qu'on porte à la surface. La cicatrice d'un premier amour nous dit que tout passe.
Je t'amène en France où il y a un immense succès, Corneille, avec Aya Nakamura, qui est l'une des chanteuses françaises de la francophonie même, les plus populaires présentement.
C'est là.
Oui, c'est ça, c'est exact. Là. Elle a un parcours exceptionnel et toi aussi, t'en as eu un. Et les deux, vous êtes ensemble pour cette chanson avec classe qu'elle a reprise. Ça a été un méga succès. Vous l'avez réenregistré ensemble avec le DJ Trinix. Comment t'as su, en fait, qu'elle était une fan de toi jeune? Ça fait quand même drôle à dire quand même que elle t'écoutait quand t'étais
oui.
plus jeune.
je suis rendu là.
Oui, c'est ça, c'est quand même drôle d'avoir eu ce lien-là avec elle, Aya Nakamura.
En fait, moi, je l'ai su par les réseaux sociaux, mais je le sais depuis quelques années, parce que évidemment, moi, je suis pas très réseaux sociaux, mais j'ai des gens dans mon entourage qui me partagent ce qui se dit sur moi une fois de temps en temps. Je vais voir moi aussi là. Puis je savais qu'elle avait l'habitude de reprendre avec classe dans ses shows, dans ses spectacles, dans des shows télé, puis ou à la radio. Donc je le savais, puis j'avais eu l'occasion de lui parler par visioconférence pour lui faire un petit coucou lors d'une émission, d'un tournage d'une émission de télé très populaire en France. Et donc je savais tout ça, mais c'est l'initiative des Trinix de prendre sa voix qui chante avec classe et de la remixer à leur sauce qui a tout commencé, parce que quand ils l'ont fait et qu'ils ont mis ça sur le web, ça a eu une telle réaction que ça nous est revenu à moi et à Aya, et on s'est dit ce serait fou de ne pas en faire une vraie chanson et de la rendre disponible. Mais pour être très honnête, je ne pensais pas que ça allait être ça allait avoir le succès que c'est en train d'avoir. Je le pensais pas. Puis même si je sais évidemment ce que ça voulait dire que d'être sur une chanson avec Aya Nakamura, qui plus est une chanson très connu de mon répertoire. Je pensais pas que ça allait. Pour moi, c'est une chanson que le monde connaissait déjà, et je me disais, ben, c'est Aya Nakamura, elle a plein de hits. Les gens vont peut-être juste trouver ça cute, puis de voir que on se reconnaît, elle reconnaît le tonton qui est passé avant elle. Puis moi, je suis content d'être associé avec la nouvelle mégastar. Sur un son, une relecture moderne de cette chanson par Trinix, mais je pensais pas que ça allait redevenir un hit. En termes de diffusion, c'est en train de devenir plus gros que ça l'était quand elle est sortie il y a 20 ans. En fait, moi, je pensais pas à ça du tout.
J'en ai pas, mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. En 20 ans, écoute-moi, quand je te chante, c'est avec toi.
Ça fait quoi, Corneille, d'être maintenant rendu une courroie de transmission pour les jeunes artistes? Parce que tu le fais à la voix, tu le fais avec ta maison de disques aussi, d'avoir ce recul nécessaire pour prodiguer des conseils, être présent, être. T'as parlé de tonton. T'es pas encore un tonton, là, je te rassure tout de suite, là, mais.
J'y trouve tout le sens de ce que je fais et ça va sembler bizarre mais ou drôle, mais je dirais même ça donne du sens à mes 20 ans de carrière. C'est-à-dire que je sens un appel tellement fort aujourd'hui de faire ça, le Mora, accompagner la jeune génération mieux que je peux. Je prends ces tâches très au sérieux, évidemment, puisque l'appel est tellement fort, et que je me dis, mais il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur de cet appel-là. Puis je me rassure en me disant que j'ai 20 ans d'école. ça fait depuis 20 ans que je me prépare à ça, à accompagner les plus jeunes, à les aider à trouver leur place dans cette industrie qui n'est pas facile, qui a son lot d'obstacles et de problèmes. Mais puis ça. À chaque fois que je sois dans le fauteuil rouge à la voix ou dans le travail que je fais auprès des jeunes qu'on a signés dans ma nouvelle maison de disques, je me repose sur ces 20 ans de carrière pour me dire que je suis qualifié pour accompagner ces gens-là. C'est ça, c'est comme ça que je vois les 20 ans que j'ai passé à apprendre, à passer par des hauts et des bas, puis retrouver des hauts. J'accumulais des expériences que j'allais pouvoir partager plus tard, le plus tard étant maintenant, finalement.
Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie à la disque. Pourquoi c'était aussi important pour toi?
Ben, parce que c'est important dans tout corps de métier, je pense, surtout quand on commence, de sentir que la profession, ou plutôt les représentants de cette profession-là, te reconnaissent, ou du moins reconnaissent la famille culturelle à laquelle tu appartiens. Si on doit parler de musique, moi, ça fait depuis 20 ans que je fais ce métier-là, et je n'ai jamais eu de catégorie, c'est-à-dire que ma musique n'a jamais eu de catégorie à la disque, donc je me suis toujours senti un petit peu comme une espèce de... C'est toujours comme une espèce de no man's land à chaque fois que j'allais à la disque, où je me disais, ben, si je fais partie des cinq qui ont eu la plus grosse année, je serai reconnu au même titre que les autres. Mais si c'est pas le cas, si je suis pas dans le top 5 de ce qui a vendu le plus, qui a joué le plus à la radio, qui a été le plus populaire, je serai nulle part parce que j'ai pas de catégorie. Quand on fait du rock ou du folk ou du blues ou du country, quand t'es artiste country, t'as pas besoin de te battre contre le numéro 1, Roxane Bruno, Deux Frères et Les Trois Accords. T'es, t'es country, fait que t'as ta catégorie, puis tu peux briller au sein de ton groupe culturel et dans ton genre musical. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Et approchant je veux pas sonner comme un jeune retraité, mais approchant à une étape dans ma vie où je commence à penser sérieusement à me consacrer, à me dédier à 100% à ce travail de mentorat puis de développement d'artiste, je me dis que j'aimerais que ça existe pour les autres, pour les jeunes artistes qui s'expriment dans ce style musical-là, soul, R&B, gospel, juste pour qu'ils se sentent vus et reconnus et qu'ils sachent que l'industrie les prend au sérieux et qu'ils se sentent inclus. Ça facilite les choses quand tu sens que le métier, ton industrie te reconnaît et te voit et te comprend. Parce que c'est ça une question de se sentir compris. Je fais ce style de musique et la disque me dit qu'elle reconnaît ce style de musique comme étant assez important pour créer une catégorie. Ça me dit bienvenue parmi nous. Puis moi, je sais que j'aurais beaucoup aimé ça avoir une catégorie sur R&B gospel quand j'ai commencé.
Est-ce que ça aurait été plus facile?
Je vais dire quelque chose d'un peu paradoxal. Je pense pas que ça aurait changé ma carrière, mais ça m'aurait fait sentir un peu plus bienvenu à chaque fois que j'allais à la disque, et ça aurait peut-être fait en sorte que je m'isole moins et que j'aille à la disque à chaque fois avec un vrai plaisir d'aller juste avoir du fun avec toute ma gang artistique. Sachant aussi qu'il y a une sous-gang à moi qui s'exprime dans le même style que moi, plutôt que à chaque fois, bah plus maintenant, ça fait peut-être depuis quelques années que j'y vais avec grand plaisir, mais je sais qu'il y a des années où j'y allais à contre-cœur parce que je me disais, bah, écoute, j'y vais parce que j'ai une nomination, puis aussi parce que je représente peut-être une culture musicale, mais je me sens plus ou moins reconnu, compris par le simple fait qu'il n'y a pas de catégorie pour moi. Et avec la voix, puis le fait que je suis de plus en plus très proche d'une nouvelle génération d'artistes, j'ai ce recul-là, puis je me dis, ah non, ce serait le fun que eux l'aient, cette chance-là de se sentir accueilli par la grande communauté artistique.
Ben Corneille, bravo pour cette nouvelle catégorie à la disque. Hâte de voir les nommer et aussi, surtout, bravo. 20 ans de carrière, il y a beaucoup de choses à célébrer quand même. Et aussi ce nouvel album, L'écho des perles, qui est maintenant disponible. Merci Corneille d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Le nouveau film de Louise Archambault, La promesse d'Iréna, est maintenant en salle. On parle avec l'actrice principale, Sophie Nélis.
La chronique mi-chaud, mi-froid, une présentation de Point S Garage Martin-Roy de Sainte-Luce.
C'est pas là, hey. Jouer au hockey sur la rue Saint-Germain, là.
Mais non, on est sur le boulevard La Fontaine, là.
Oui, ça a vu La Fontaine.
Puis on a tous joué au hockey dans la rue quand on était jeune.
Mais on a tous connu aussi des vieux monsieur qui étaient intolérants.
Ouais,
on connaît l'histoire de Charles Dickens, le vieux Scrooge à Noël, là.